France Culture, un peu plus de 8h30, l'heure des chemins de la connaissance, deuxième volet de la série de Catherine Pont-Humbert. Aujourd'hui, la grande famille des dieux grecs, avec les hellénistes Jean-Louis Bacchès et Monique Alm-Tisserand.
Muse, chante un hymne pour Hermès, fils de Zeus et de Maïa, seigneur du Silène et de l'Arcadie aux moutons, bienfaisant messager des dieux, lui qu'enfanta Maïa, nymphe aux cheveux superbes pour avoir fait l'amour avec Zeus.
La Théogonie d'Hésiode raconte la naissance des dieux en même temps que la naissance du monde. Elle donne aux dieux leurs noms et distingue leurs diverses dignités. Quant aux hymnes attribués à Homère, ils chantent les exploits, les talents, les hauts faits des dieux, et ce, dès leur plus jeune âge. En effet, au sein de la très nombreuse famille des dieux grecs, les parents, tout naturellement, ont des enfants. Et la présence d'Hermès ou de Dionysos dès leur plus jeune âge dans le récit mythologique ne fait au fond que nous renvoyer à cette nécessité évidente que l'histoire d'une naissance doit se poursuivre par celle d'une enfance. Monique Alm-Tisserand.
C'est une raison probable. Une autre des raisons, à mon avis, c'est que cela dérive aussi de l'anthropomorphisme des dieux grecs. Le fait qu'il existe des enfants dieux est un paradoxe dans la pensée grecque. Il suffit de relire les textes philosophiques pour s'en rendre compte, puisque les dieux sont immortels, et même chez Homère, les dieux ne sont pas des humains. Ils peuvent s'incarner dans différentes formes, mais ils n'ont pas l'état physio-biologique, bien sûr, de la condition humaine. Et c'est peut-être d'ailleurs, par le biais de l'iconographie, la nécessité de les représenter plastiquement, que l'on en est venu à leur donner, bien sûr, une apparence qui est proche du schéma anatomique humain. Et ce faisant, cela aussi a obligé les imagiers, et puis cela s'est généralisé dans les mentalités, dans les croyances, à donner aussi une appartenance à des classes d'âge, à faire en quelque sorte vieillir les dieux selon les étapes biochronologiques de la vie humaine.
Donc, elle condamne les dieux à subir le sort humain.
Certains dieux naissent enfants, vivent des aventures dans leur enfance, leur adolescence, atteignent un âge mûr et ont effectivement un statut évolutif, à la seule différence qu'ils sont immortels, ce qui est quand même une différence majeure.
Alors cependant, il me semble, Monique Alm-Tisserand, que chez l'enfant Hermès, on devine la nature du dieu Hermès. Chez l'adolescent Apollon, les gestes sont des gestes apolloniens. Autrement dit, dès l'enfance, le dieu en puissance est présent.
Le dieu enfant est un dieu à part entière, puisqu'il vit, je dirais, une petite enfance totalement surnaturelle. Il possède déjà la totalité de ses pouvoirs. Et l'hymne homérique à Hermès, l'iconographie aussi d'ailleurs, montre par exemple l'enfant Hermès, 3 jours après sa naissance, quitter son berceau pour aller dérober les troupeaux de son frère Apollon. C'est un exemple parmi tant d'autres qui nous montre ses capacités, ses dons exceptionnels qu'ils peuvent exercer effectivement à peine nés.
Elle mit au monde un enfant plein de ruses et de séductions. C'est un brigand. Il vole le bétail, il amène les rêves, il est aux aguets la nuit, il veille aux portes. Bientôt, il ferait voir des merveilles parmi les dieux qui ne meurent pas. Il est né à l'aurore. Dès midi, il jouait de la cithare. Quand vint le soir, il vola les vaches d'Apollon l'archer. Il naquit le 4 du mois de Maïa la souveraine. À peine il avait jailli du ventre immortel de sa mère, déjà il ne voulait plus rester dans le berceau sacré. Il sauta sur ses pieds pour aller chercher les vaches d'Apollon. Il franchit d'une enjambée le seuil de la haute caverne. Là, il trouva une tortue dont il eut 1000 bonheurs. Hermès est le premier qui fabriqua une tortue qui chante.
Thank you.
Homérique à Hermès est un poème qui célèbre un dieu grec en tant qu'enfant divin. De telle sorte, Jean-Louis Baquès, qu'on a presque envie de dire que cette description est devenue le portrait classique de l'enfance d'un dieu.
C'est une description classique, emblématique. Il faut rappeler que cette enfance est extrêmement rapide. Que tel Gargantua, Hermès est à peine né, qu'il a déjà une stature d'adulte ou presque, et qu'il va courir le monde, ce que bien des bébés sont incapables de faire.
Ah, il faut peut-être rappeler tout de même qu'Hermès, bien sûr, est fils de Zeus, et puis d'une nymphe aux cheveux superbes qui a pour nom Maïa.
Et dont on sait relativement peu de choses. Ce qui est frappant, c'est la relative discrétion des amours de Zeus et de Maïa. L'hymne le dit d'ailleurs au début. On s'est caché, bien entendu, de Héra, mais quand on pense aux scènes tumultueuses auxquelles ont donné lieu Europe, Léda ou Danaé, Maïa a l'air de quelqu'un d'extrêmement discret. Et il me semble que c'est héréditaire. Les amours d'Hermès, car Hermès devient aussi rapidement un personnage tout à fait séduisant pour les mortels, les amours d'Hermès sont toujours très discrètes. Il y a, à côté donc de la mise en scène de Zeus ou de la violence d'Apollon, ou je ne parle pas de celle de Poséidon qui est épouvantable, Hermès a l'air d'un très gentil garçon qui passe sans faire de bruit.
Il y a une sorte de fulgurance dans cette enfance d'Hermès, puisqu'il est vrai que, né à l'aurore, dès midi, il joue déjà de la cithare. Mais en même temps, il nous renvoie à une des grandes caractéristiques des enfants divins tels qu'on les rencontre dans toutes les mythologies, c'est qu'il échappe aux lois du temps.
Absolument. Il échappe aux lois du temps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'histoire. Et même précisément, l'hymne homérique à Hermès, qui est le plus long des hymnes que nous ayons conservés, raconte une histoire assez complexe, avec des conflits, des détours, et une réconciliation finale qui est la consécration de l'enfant comme dieu.
Hermès a tout de même les caractéristiques d'un enfant, parce que c'est un petit brigand, il va voler du bétail, donc il fait montre de ruses et d'astuces, ce qui est habituellement des caractéristiques que l'on attribue volontiers aux enfants.
C'est un espiègle, incontestablement, qui se permet toutes sortes de... C'est un chenapan, enfin, qui se permet toutes sortes de mauvaises actions, et qui pourtant a un bon fond.
Mais chez l'enfant Hermès, on devine, Jean-Louis Baquès, le dieu Hermès dans sa plénitude d'adulte. Autrement dit, ces enfants et leur intervention dans le récit, on pourrait presque dire qu'ils sont là comme des sortes de préfigurations de la puissance à venir, du grand dieu qu'ils vont devenir.
Incontestablement, mais au moins dans l'hymne, Hermès continue à être enfant, joue à être enfant. Lorsqu'Apollon est arrivé à retrouver sa trace et entre dans la caverne, Hermès est dans son berceau et il suce... Il n'y a pas de mot en français académique pour ce que nous connaissons tous, cet objet transitionnel, comme disent les psychanalystes. Enfin, Hermès a un chiffon à la main et il le suce convenablement comme un bébé. Enfin, il a un certain nombre de comportements de bébé qui sont en partie joués, mais qui lui sont propres. Je ne vois pas d'exemple d'autres dieux qui jouent si bien leur rôle d'enfanson.
Alors, en même temps qu'il suce son objet transitionnel, quelques heures après sa naissance, il va donner son premier concert, et lors de ce premier concert, il chante le monde, hein, c'est-à-dire le cosmos. Autrement dit, il connaît le monde pour le chanter.
Il chante la naissance du monde. Tout poète chante la naissance du monde. Et là, je suis convaincu qu'il y a, je suis pas le seul, bien entendu, qu'il y a un rapport entre la vision de la mise en ordre du monde, car la naissance du monde est la mise en ordre d'un chaos initial, et la musique. Construire. Et la lyre n'est pas n'importe quel instrument. La lyre est un instrument qui s'accorde, comme un violon, comme une guitare. Et c'est à partir de la technique d'accord de la lyre que les musiciens pratiquaient, que les sages, et notamment Pythagore, ont élaboré la notion d'harmonie, la notion d'harmonie du monde, la notion de musique du monde. Il n'y a pas seulement une musique des sphères, le monde entier est une musique. Alors, pour inaugurer la sitar, le meilleur sujet est encore de dire la naissance du monde.
On se rappelle qu'Hermès va fabriquer son premier instrument de musique, la lyre, dont il est l'inventeur. Donc tout petit. Et c'est avec le plus grand naturel que le récit nous raconte comment il s'empare d'une carapace de tortue et qu'il la transforme en instrument de musique. Ô Dieu, même enfant, tout est évident et tout est simple.
Ô Dieu, tout est simple. Non, c'est une formule qu'on rencontre chez les poètes et qui est vraiment à la base de la légende et de la perception des dieux. Pour les dieux, tout est simple.
Et au fond, Jean-Louis Baquès, pourquoi cette nécessité de faire entrer Hermès en scène dans le récit mythologique dès l'enfance?
Les récits mythologiques sont souvent des récits d'enfance. L'hymne à Apollon est aussi le récit d'une naissance. Il y a des légendes que nous connaissons tous autour de l'enfance de Dionysos. Et il y a aussi des légendes autour de l'enfance de Zeus, après tout. Elles n'ont pas donné lieu à un hymne que nous ayons conservé, mais enfin, elles existent. Les dieux naissent, comme le monde d'ailleurs. Enfin, la théogonie d'Hésiode n'est autre que le récit de la naissance du monde. Les dieux sont immortels. Ils ont atteint une certaine perfection, ils l'atteignent très rapidement, en tout cas pour Hermès, quelques heures suffisent, mais ils viennent d'ailleurs, d'un moment antérieur où ils n'existaient pas.
Finalement, à une naissance doit succéder une enfance.
Bien entendu. Bien entendu, plus ou moins, il y a peu de légendes, me semble-t-il, autour de l'enfance d'Athéna. La naissance d'Athéna est bien connue, mais elle apparaît toute armée, toute prête, semblable à elle-même définitivement. Alors qu'Hermès a ce côté double de l'enfant espiègle et de l'enfant sauvage, puisque l'hymne raconte à la fois comment, ayant volé les bœufs d'Apollon, il est poursuivi par Apollon, qui est même son grand frère, et finit par se réconcilier avec lui, en lui offrant justement cette sitar qu'il a fabriquée lui-même au prix de la vie d'une tortue. Et donc, d'une certaine façon, Hermès devient un enfant sage, mais en même temps, il prend sa place dans la famille par rapport à son grand frère, mais en même temps, il entre dans le monde des dieux, donc dans le monde de la société, alors qu'il est né à l'écart, puisque Maïa et lui vivent dans une caverne loin du monde. Cette accession à l'âge adulte, c'est aussi l'entrée dans la cité des dieux.
Terrain, ma chère, il faudra que tu apprennes à gagner sans tricher, ou tout au moins à perdre de bonne grâce. Ah, salut à toi, Hermès.
Salut à toi, puissant Zeus.
Alors bien évidemment, le récit mythologique, lorsqu'il met en scène des enfants, les met toujours en position d'actes tout à fait exceptionnels et d'actes extraordinaires.
et en même temps, ils font toujours preuve, face aux obstacles, à une ruse extraordinaire. Autrement dit, on pourrait presque interpréter les obstacles qui leur sont présentés comme autant d'initiations.
Bien entendu, c'est une des explications. On parle d'initiation, de probation d'adolescence. C'est une évidence. C'est surtout vrai lorsque ces aventures se situent à l'âge de l'adolescence. Ça paraît moins évident lorsque ces actions miraculeuses interviennent dès la naissance et que ce sont en fait des petits poutis que l'on représente. J'ai cité Hermès, mais l'on peut aussi mentionner l'enfant Apollon tirant de son arc les flèches qui vont tuer le serpent Python qui lui donneront la suprématie du sanctuaire de Delphes. Ils sont dans l'iconographie figurés sous la forme de tout petits enfants de nouveau-nés, mais d'une puissance exceptionnelle et d'une ruse, d'une métisse exceptionnelle.
Les défis qui sont d'ailleurs posés aux enfants divins, Monique Almetisserand, introduisent également à cette idée qui, je crois, est fondamentale, c'est qu'ils sont extrêmement souvent exposés à la violence.
Ah, totalement. La vision cosmogonique hésiodique est une vision du monde qui n'est fondée que sur la violence, au départ en tout cas, initialement. D'ailleurs, initialement n'existe que chaos, le vide, mais qui, dans notre langue, selon l'aventure étymologique, a peut-être aussi déjà cette acception de chaos en quelque sorte, et on a le sentiment que cet ordre olympien justement n'intervient qu'après de tumultueuses violences et un tumultueux désordre cosmique qui va petit à petit en nuançant les choses, en hybridant peut-être aussi les dieux, apporter cette suprématie olympienne et cet ordre définitif.
Il me semble d'ailleurs que les enfants divins, c'est le cas d'Hermès, ont un rapport à la nature et aux éléments naturels extrêmement évidents, extrêmement simples, comme s'ils savaient immédiatement ce qu'ils allaient pouvoir en tirer.
Oui, une relation à la nature, c'est vrai, et cela est peut-être lié aussi à leur capacité magique, enfin de susciter la magie. Dionysos, Hermès peuvent à loisir susciter la croissance végétale. Et dans l'hymne homérique à Hermès, on voit par exemple Hermès faire croître un gâtillier, une plante méditerranéenne par excellence, pour emprisonner son frère Apollon dans les rinceaux de cette branche, et il existe des schémas analogues dans le mythe de Dionysos faisant susciter la vigne pour neutraliser ses ennemis, ceux qui le pourchassent ou qui pourchassent les femmes de son entourage, à savoir les Ménades.
Hermès le Magnifique sauta d'un bond dans son berceau. Il serra autour de ses épaules son drap comme un enfant tout petit. Il tenait à la main sur ses genoux un chiffon pour jouer, tout en gardant la tortue du côté qui est à gauche. Mais elle vit bien qu'il était là, la déesse, et elle lui dit « Oh, le petit rusé, d'où viens-tu à cette heure de nuit avec ton allure insolente? Je vois bien ce qui va se passer. » Ou bien d'ici peu, le fils de Leto viendra te ligoter, tu ne pourras pas te dépêtrer et il t'emportera, ou bien tu seras sans cesse achapardé dans tous les coins. Allez, file, ton père t'a semé pour être sans fin le fléau et des hommes qui meurent et des dieux qui ne meurent pas. » Hermès lui répondit ces paroles pleines d'astuce. « Ma mère, pourquoi veux-tu me faire peur comme un bébé tout petit ?» qui n'a pas l'impression d'avoir commis des crimes, mais qui s'inquiète et qui a toujours peur que sa maman le gronde. Mais je vais apprendre un métier, le meilleur des métiers, qui nous fasse honneur à tous les deux, à jamais. Dis ce que tu veux, nous n'allons pas rester ici, seuls de tous les immortels, à ne pas recevoir de cadeaux, à ne pas avoir de prières. Il vaut mieux vivre en société, tous les jours avec les immortels, dans la richesse et l'abondance et l'opulence, qu'accroupe-t-on dans une caverne embrumée. » Hymne pour Hermès, Homère.
Est-ce que finalement, Monique Almetisserand, la présence d'enfants divins dans le récit mythologique ne nous renvoie pas à la question de la paternité? Parce qu'au fond, pour qu'un père, pour qu'un dieu prouve sa toute-puissance, il lui faut des enfants.
Je pense que c'est fondamental et cela est très clairement expliqué dans les organisations cosmogoniques et en particulier dans la cosmogonie d'Hésiode. Ce texte extraordinaire, en fait, relate toute la succession de ces générations divines, car plusieurs générations divines se sont succédées, jusqu'à ce que s'établisse d'une manière définitive la suprématie des Olympiens qui apporte un ordre et stabilité dans le monde. Mais il est évident que dès le point de départ, dès l'union de Gaïa, le principe primordial de la Terre, union incestueuse avec son fils Uranos, à partir de là, les deux complémentarités que sont Gaïa et Uranos et qui ne forment qu'un tout, vont être brutalement séparées. Il faudra une intervention qui est la castration d'Uranos pour que cela survienne, mais séparées pour pouvoir justement procréer, engendrer. Mais c'est à double tranchant puisque à chaque génération, on va constater que la descendance rivalise, cherche à rivaliser avec le père. C'est déjà une sorte de complexe d'Œdipe, puisque chacun des nouveaux enfants dieux va en quelque sorte détrôner son géniteur. C'est vrai pour Cronos vis-à-vis d'Uranos, avec la castration que j'ai mentionnée. Ce sera vrai aussi avec la supercherie de Rhea, substituant la pierre langée à l'enfant Zeus qu'elle veut ainsi sauver de la dévoration des enfants précédents.
L'enfant divin dans la mythologie grecque nous renvoie à la paternité. Est-ce que de la même façon, on pourrait dire, Monique Almetisserand, qu'il nous renvoie aussi au statut de la mère, en sachant que dans les récits mythologiques, ce sont tantôt des déesses, tantôt des mortels, puisque les dieux tombent amoureux indifféremment des unes ou des autres.
Oui, Zeus en particulier, qui mange à tous les râteliers, si j'ose dire, puisqu'il connaît des unions sexuelles multiples avec des nymphes, avec des mortels, avec des titanides. Mais effectivement, j'ai cité tout à l'heure Uranos et Gaïa, le principe primordial initial, il est maternel. Le principe qui va, en quelque sorte, créer l'univers, c'est la terre. Et la mère, le principe donc féminin, est essentiellement lié à l'idée de la terre-mère. C'est Gaïa, Gaïa qui va la première procréer, mais elle va procréer contre nature, puisqu'elle va engendrer seule, par parthénogenèse, son fils Uranos. Donc le principe maternel dans cette pensée, en tout cas hésiodique, est même antérieur au principe mâle et donc à la notion ou au concept de paternité.
Mais en revanche, il me semble que les mères d'enfants divins sont assez peu souvent présentées dans leur rôle maternel au sens de la protection faite à l'enfant, puisque leurs enfants sont très tôt soumis aux épreuves de la vie.
Voilà, finalement, ces enfants dieux dont nous parlons, ces quelques exemples d'enfants divins, connaissent un sort qui est toujours un sort dangereux. Ce sont des enfants adultérins, par exemple, qui encourent la jalousie de Héra, c'est le petit Zeus caché pour échapper à la manducation paternelle, à la manducation par Cronos. Donc, effectivement, et cela fait que, dès leur naissance, ce sont des enfants qui sont enlevés à leur mère. Zeus est enlevé à Rhea, ils sont enlevés à leur mère, le petit Dionysos est enlevé à Sémélé, qui meurt d'ailleurs, foudroyé d'avoir contemplé Zeus dans son principe divin, qui est insupportable à la vue des humains, intolérable, tant il irradie de lumière. Et donc ce sont des enfants qui sont au contraire toujours confiés à des courotrophes, des nourrices le plus souvent, des nymphes qui se chargent de cette éducation, pour Zeus c'est le cas, pour Dionysos également, ou bien également à Hermès, le dieu Hermès, qui a pour fonction, à côté de ses fonctions de héros bien connues, celle aussi d'être un protecteur de la petite enfance et de protéger, de conduire ces petits enfants en danger dans des abris, généralement dans des grottes, car tous ces enfants divins, Zeus en Crète, Dionysos sur le mont Nyssa, sont bien sûr éduqués dans une grotte, au tréfonds d'une grotte, donc en relation là encore avec la terre. La grotte étant peut-être même au-delà simplement d'un abri d'une cavité chtonienne, étant peut-être aussi un homologue dans la pensée antique de la matrice du ventre maternel. Comme une substitution à nouveau. Finalement, ces oppositions, enfin rigoureuses entre paternité, maternité, principe mâle, principe femelle, sont ambigu quelquefois à l'origine de la mythologie, et lorsqu'on se réfère justement au texte le majeur dans ce sens, qui est toujours la Théogonie d'Hésiode, parce qu'on s'aperçoit que dans le cas de certains enfants, il peut y avoir une sorte de double naissance, c'est-à-dire une naissance à l'origine d'un principe féminin, mais qui fait en sorte ensuite que l'enfant va être également engendré par le père. C'est-à-dire qu'il est à la fois mis au monde par la mère, puis réengendré par le père. Alors, il y a des exemples tout à fait fameux. C'est l'exemple d'Athéna, la fille de Zeus, qui est enfantée grâce à l'union de Zeus et de Métis. Métis, qui est une allégorie de l'intelligence, de la ruse. Et bon, c'est très long à expliquer, mais connaissant un oracle qui a annoncé à Zeus que l'enfant à naître risquait de le détrôner, toujours dans ce contexte de rivalité dynastique auquel je faisais allusion tout à l'heure, pour court-circuiter l'oracle, Zeus va avaler la mère enceinte, la mère gravide. Et donc, l'enfant n'est pas encore né, il avale véritablement l'épouse, et il continue en lui la gestation de l'enfant, et Athéna jaillira une fois la gestation accomplie en naissant de la tête paternelle. Donc nous avons là déjà quelque chose qui ressemble à une double naissance derrière la fable, parce que c'est l'apparence de la fable. C'est au contraire un récit d'une grande profondeur cosmogonique et philosophique. Et je suis convaincue même que dans des principes initiaux comme Gaïa, Uranos, la mère, je dirais, incestueuse, s'unissant à son fils, le texte hésiodique dit « Uranos la couvre toute » et ils vivent une union charnelle qui est éternelle, c'est-à-dire qu'il ne sort jamais du sexe de sa mère. Et j'ai dans cette idée de complétude, de complémentarité, de complétude parfaite, peut-être un parallèle avec ce qui fonde en quelque sorte certaines croyances asiatiques, des complémentarités comparables à celles du yin et du yang. Je pense qu'il y a derrière cela des réflexions philosophiques profondes et qu'il ne faut pas se contenter de lire la théogonie d'Hésiode, les mythes grecs au premier degré. Il y a à l'arrière-plan véritablement des visions de la jeunesse du monde, de l'ordre du monde qui sont d'un très haut niveau et d'un très grand intérêt.
L'enfant divin, la grande famille des dieux grecs, avec Jean-Louis Baquès, éditeur dans la collection Folio aux éditions Gallimard de la théogonie d'Hésiode et des hymnes homériques, et Monique Alme-Tisserand, auteur de Cannibalisme et Immortalité, L'enfant dans le chaudron en Grèce, publié aux Belles Lettres. Texte lu par Miglène Mirtcheff, coordination Xavier Carrère, mixage Romain Lenoir, Olivier Dupré, réalisation Patrick Molinier, une émission de Catherine Poinbert.